Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de la rédaction. Cette semaine, je serai en compagnie de Ben.
Salut à tous.
Et d'ATH.
Salut tout le monde.
Prenons le soin au passage, messieurs, de saluer Morren qui est tombé au combat de la grippe, n'est-ce pas? Ainsi que de Pixel qui a disparu dans la nature. Pixel, si tu nous entends, on te salue. Bon, au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons d'un jeu sur Ignite, nous enchaînerons ensuite sur un nouveau jeu dans la licence Might and Magic, nous parlerons également de Watch Dogs 2, nous évoquerons Fire Emblem qui a eu droit à quelques annonces cette semaine, hein, plusieurs jeux ont été annoncés, n'est-ce pas? Nous parlerons également, pour finir, de la Nintendo Switch, encore et toujours. Nintendo, pourquoi? Vous verrez ça tout à l'heure. Mais nous allons donc commencer, messieurs, avec un Greenlight, et ce Greenlight, c'est celui de Dead Cells. Je ne vous cacherai pas que la première fois que j'ai entendu parler de ce jeu, j'ai failli fermer la page Steam du jeu quasi immédiatement. Pourquoi? Parce que c'est un Metroidvania roguelite, et les Metroidvania et les roguelites, c'est pas exactement ce qui manque hein, de nos jours. Je veux dire, il y en a une chier de partout. Mais j'ai voulu vous en parler pour deux choses. Déjà, je suis tombé amoureux de la direction artistique. Premier point, c'est-à-dire que je trouve le jeu super méga beau. Alors pas forcément sur la vidéo de présentation, même si elle est déjà très jolie, c'est surtout, il y a certains screens à côté où tu vois la variété des environnements, notamment il y a un marécage, un espèce de port souterrain aussi, et tu vois le truc, tu fais « Ah, c'est trop beau, je veux ce jeu !» Voilà, et aussi parce que c'est un projet français, et que, ma foi, écoute, j'ai envie de les soutenir, les petits bordelais, n'est-ce pas? D'autant plus que, bon, je veux dire, il y a un peu un truc qui m'agace avec Greenlight, c'est qu'il y a souvent des jeux de merde qui sont soutenus sur cette plateforme, et tu sais pas trop pourquoi, parce que quand tu vois la gueule des jeux, tu dis « Putain, il y a vraiment tout et n'importe quoi qui passe de nos jours sur Steam. » Et donc, je me dis, bah écoute, quitte à soutenir un jeu sur Ignite, autant que ce soit un jeu qui a l'air bien. Donc, surtout que ça a l'air un peu péchu, tout ça. Apparemment, ils ont eu une idée comme quoi, en fait, c'est en mourant que tu vas débloquer des nouvelles zones du donjon. Alors, je suis curieux de voir comment ils vont gérer ça, parce que si tu débloques des nouvelles zones en mourant, alors à quel moment ça se trigger? Parce que si tu meurs toutes les 5 minutes, ça veut dire qu'au bout de 5 minutes, t'as débloqué toutes les zones. Ça se passe comment? Donc bon, je suis très curieux, mais bon, d'un autre côté, encore un hein, roguelite slash Metroidvania, quoi. Donc à voir. Messieurs, rien à ajouter?
Non.
Non, non, à part que, comme tu l'as dit, ça a l'air... graphiquement, ça a l'air très sympa. Après, voilà, c'est à voir.
Alors, on va vous parler maintenant d'un autre jeu. Je pense que si Mandren avait été là, il serait un peu foufou. Ce jeu, c'est Might and Magic Showdown. Alors, avant de commencer, je tiens déjà à dire que, malgré tout ce que je vais pouvoir dire par la suite, je pense qu'il s'agit d'un viol d'une licence. C'est-à-dire que je cherche encore le rapport avec Might and Magic, hein, pour être très sincère avec vous. C'est-à-dire qu'en gros, il s'agit d'un espèce... de jeu de plateau virtuel où tu vas pouvoir peindre tes figurines, n'est-ce pas? Pour être très honnête avec vous, le jeu m'a pas trop excité par son gameplay, hein. Des retours que j'ai eu, en tout cas, c'est pas très jojo. Donc moi, ce qui m'attire surtout, en fait, sur cette news, c'est le côté peinture de figurines. Il faut savoir que c'est l'équipe qui est derrière Grow Up, notamment, chez Ubisoft. Donc c'est l'équipe qui s'amuse un peu à faire des projets originaux, tout ça. Et je me suis dit, en voyant ce projet, alors le jeu m'intéresse pas, par contre, les mecs, vous tenez un truc, là. À mon avis, tu vois, un jeu de figurines comme ça, où tu peux peindre tes figurines, tu peux les partager avec les autres joueurs, mais où en plus, tu vois, tu pourrais créer tes propres décors de jeux de plateau, un peu à la Warhammer, tu sais, où les mecs, ils se partageraient des assets et tout, pour créer des cartes, et derrière, imaginons un truc de fou, tu vois, les meilleures cartes, on va dire qu'elles seront imprimées en 3D, et puis il y aura des vrais tournois de jeux de plateau dessus et tout. J'en discutais avec un pote qui est passionné figurines. Je pense que il y a moyen d'avoir des fans de jeux de figurines qui vont se lancer là-dedans, notamment ceux qui, comme mon pote, vivent désormais dans un petit appartement et qui n'ont pas forcément les moyens, tu vois, de se trimballer d'énormes jeux de plateau chez eux, tu vois. Voilà. Les mecs, vous avez un concept. Pour le moment, je suis pas du tout convaincu par le concept de base, parce que déjà, si tu veux, le côté je peins ma figurine, mais en fait, le jeu, il est en vue du dessus, et finalement, tu vois pas les détails sur les figurines. Il y a une incohérence, je trouve, entre les deux trucs. Et en fait, limite, tu vois, il faut savoir que l'éditeur, il est téléchargeable à part, en fait. Et limite, tu vois, je suis intéressé que par l'éditeur du truc, et le jeu, il m'intéresse pas du tout, quoi. Mais je pense qu'il y a une idée, hein. Parce que quand tu vois que, sur Steam, il y a, comment il s'appelle le jeu de gestion de parc d'attraction, là.
Planet Coaster.
Ouais, Planet Coaster, qui a une partie de gestion quasi inexistante et dont le concept repose quasi exclusivement sur le fait que tu peux construire ton parc, que tu peux le partager avec les autres joueurs, que tu peux créer des éléments de décor que tu peux partager avec les autres joueurs. Je me dis ça, mais avec un éditeur de jeux de plateau virtuel un peu sexy, tu vois, je pense qu'il y a des gens un peu frustrés, tu vois, de plus pouvoir faire du jeu de plateau qui se jetteraient dessus, quoi. Je vous propose qu'on passe à Watch Dogs 2, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter.
Non, c'est bon pour moi.
Et là, je pense qu'on va terminer avec mon monologue, puisque il y a eu une annonce sur le blog d'Ubisoft cette semaine. Ils ont annoncé, tout bonnement, l'arrivée d'une démo sur PS4 et Xbox One. La PS4, c'était à partir du 17 janvier, et la Xbox One, c'est à partir du 24. Je précise qu'on enregistre le dimanche 22, n'est-ce pas? Donc, bah pourquoi ils ont mis en ligne une démo? Parce que bah écoutez, il est très probable que les ventes ne soient pas à la hauteur, n'est-ce pas? D'ailleurs, il me semble qu'ils le disent plus ou moins dans la news.
Oui.
Sachant que je précise, il n'y a pas de démo sur PC, mais bon, en même temps sur PC, je veux dire, t'achètes le jeu, tu le fais rembourser derrière s'il te plaît pas. Donc bon, on a déjà plus ou moins des démos, une démo sur PC, hein, je veux dire.
C'est vrai.
Voilà. Bon, messieurs, qu'en pensez-vous, le retour des démos, tout ça, les éditeurs qui retrouve les bienfaits des démos.
Moi, je trouve ça très bien parce que, en fait, le plus gros problème de Watch Dogs 2, a priori, c'est Watch Dogs 1.
Non,
C'est que, non, mais c'est totalement ça parce que,
je suis
comme tu
d'accord
l'as
avec
dit,
toi.
le 2 a eu des très bonnes critiques, mais le problème, c'est que tous ceux qui ont joué au 1 ont été refroidis. Moi, le premier, ATH est dans le même cas que moi. C'était un des premiers jeux PS4 que beaucoup de monde a eu, du coup. Ça a rafraîchi beaucoup les gens. Et là, le problème du 2, bah, c'est exactement ça. Et Ubisoft, du coup, se dit, bah tiens, pourquoi pas, vu que le jeu a des bonnes critiques, essayer de, voilà, de ramener un peu les gens en offrant une démo et leur faire voir que le jeu finalement est pas si mal que ça.
Ouais, moi je suis d'accord
ATH.
avec ce qu'a dit Ben, c'est-à-dire que effectivement en fait, Watch Dogs 1 c'était un peu la douche froide pour tout le monde. Tout ce qui était bullshit lors de la révélation à l'E3 2012 et quand le jeu final est sorti, en fait, ça avait rien à voir en termes de graphisme et même en termes d'immersion dans le jeu. Moi dans le 1, ce qui m'a déplu, c'était principalement aussi tout ce qui était conduite. Là, je vais peut-être essayer voir déjà s'ils ont amélioré ce point-là. Après voir les missions qu'ils proposent, voir si c'est un peu diversifié. Mais enfin, moi, comme tu le sais très bien, tu t'es d'ailleurs moqué de moi lors d'un podcast où je n'étais pas là, que j'ai un problème avec les jeux Ubisoft en monde ouvert. Hein.
Ah, je suis désolé, celui qui t'a le plus taillé à ce moment-là, c'est Mordred. Non, une petite phrase comme ça qui est passée au passage, tac.
Oui, c'est pour ça qu'il est malade, tu vois, c'est le retour de bâton.
Voilà.
Mais je vais essayer la démo, me faire mon propre avis, mais en tout cas, c'est sûr que si Ubisoft compte sur mon argent, je pense pas qu'ils le verront parce que ça sera d'occasion. Et en tout cas, je suis très content que les démos reviennent. D'ailleurs, en parlant de démo, j'ai joué à la démo de Nioh, qui est une démo, elle, qui est aussi un peu particulière parce que c'est une démo qui est disponible que ce week-end uniquement. Donc, à l'heure où vous écouterez le podcast, vous ne pourrez
D'ailleurs,
pas le faire.
juste
Oui.
précision par rapport à la démo d'Ubisoft, vous pouvez y jouer 3 heures, donc, et vous avez accès à toutes les features du jeu pendant 3 heures. Voilà.
Ouais, bah ça, enfin, moi je trouve ça pas plus mal. Mais peut-être que en termes de démo, ce qui aurait été plus judicieux, ça aurait été de montrer des quelques missions bien précises qui donnent envie de jouer, parce que souvent les débuts du jeu, c'est pas les moments les plus passionnants. Et là, le fait que tu puisses faire le début, peut-être que tu vois, les gens ils vont se dire ouais, ça a pas l'air terrible, donc on verra le retour sur ce jeu-là. En tout cas, il s'est très mal vendu et j'espère que pour Ubisoft, ils vont pas se dire ouais, le jeu s'est mal vendu. À l'avenir, on va faire que du Assassin's Creed like et on va reprendre. Tu vois, ça c'est le. Enfin, le problème, c'est que moi j'ai peur
Tous
que.
les progrès qu'ils aient pu faire dans le 2, en fait,
Voilà. Enfin, s'il y a des progrès, parce que.
ils les mettent de côté pour refaire le 1.
Voilà. En fait, c'est exactement ça. T'as
Voilà.
très bien résumé ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas envie qu'ils refassent machine arrière. Ils vont se dire ouais, bah, en fait, le 2 il a pas plu parce que y a plus les tours radio, par exemple, tu vois. Donc, on verra bien Watch Dogs 2 une fois que j'y aurai joué. En tout cas, mon avis sur la licence n'est pas très positif pour le moment. Et peut-être que ça va changer, quoi, avec ça. On verra bien.
J'ajouterais même que peut-être que ça va changer d'une manière générale, parce que pourquoi les éditeurs ne voulaient plus des démos? Parce que ça pouvait potentiellement faire fuir les clients, tu vois. Parce que c'est vrai qu'une mauvaise démo, elle n'est pas forcément représentative du jeu, en fait. Mmh. Le problème, c'est que l'époque a changé depuis, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est à une époque où on a des jeux tout le temps, 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 tout le temps. Et à un tel point, si tu veux, que les gens sont aussi un peu devenus allergiques au risque, j'ai l'impression, tu vois. C'est-à-dire que ils vont acheter Day One les licences, tu sais, où ils sont très confiants, tu vois, vis-à-vis de la licence. C'est un public fidélisé.
Oui, voilà, genre les FIFA, les Call of, ce genre de jeux.
Voilà. Et finalement, les autres jeux, qu'ils soient AAA ou non d'ailleurs, ont moins de place, en fait. Et du coup, le fait de pouvoir dire aux gens un peu ce qui se fait sur Steam, parce que moi, ça m'arrive souvent de m'acheter un jeu, un petit jeu, tu vois, en me disant, ok, bon, ça a l'air un peu expérimental, tout ça, mais de toute façon, si ça me plaît pas, je me fais rembourser au bout de 2 heures. Et ça fait un peu office de démo, déjà, en fait.
Ouais.
Alors, je sais que c'est dur, hein, mais en même temps, il y a tellement de jeux aujourd'hui sur le marché que, il faut un moyen, tu vois, d'accrocher le joueur, en fait, quelque part. Et finalement, l'argument qui était de dire, oui, mais les démos, ça peut faire fuir le joueur, aujourd'hui, il est invalidé par le fait que, de toute façon, les joueurs, ils ont leur attention captée en permanence par les trailers, les machins et les trucs, et le meilleur moyen encore de les convaincre d'acheter le jeu, c'est de leur faire essayer, en fait. Tout simplement. Ouais. Alors certes, il y a des jeux, je pense, qui vont être pénalisés par ça, parce que du coup, il y a des jeux, tu peux pas te rendre compte au bout de 2 heures si c'est vraiment un jeu un énorme potentiel, ou voilà. Ou au contraire, tu vois, il y a des jeux qui sont basés sur des expériences courtes, en fait, et du coup, si tu proposes une démo, t'auras, imaginons, fait la moitié du jeu, tu vois. Genre, Icy, dont je vous parlais dans un test précédemment, qui, je le répète, est un excellent jeu, potentiellement, tu peux le finir en 3 heures, hein, si tu rushes. Donc, voilà.
Ouais, et puis aussi, le fait que, tu sais, les démos, pour moi, ça n'aurait aucun intérêt de faire une démo sur un RPG en te mettant le début du jeu. Parce que forcément, au début du jeu, tu vois, c'est là où t'as toutes les phases de dialogue, on installe l'univers. Et
En plus, pour peu que le système soit un peu complexe, tu te tapes, entre guillemets, toutes tes phases compliquées d'apprentissage, quoi. Même si moi, je considère que c'est des phases intéressantes, force est de constater qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas forcément des phases marrantes, si tu veux. C'est pas un moment, en fait, où tu peux exploiter le plein potentiel du jeu, quoi, si tu veux. T'es en plein apprentissage.
C'est ça.
Tout ce que tu vas pouvoir voir, à la limite, c'est est-ce que les mécaniques de jeu tournent, tu vois. C'est
ouais,
tout.
Et puis, tu vois, enfin, moi, j'avais testé, à l'époque, la démo de Ni No Kuni. Et en fait, la démo, c'était le début du jeu. Donc, c'était une phase très très narrative.
Oui, très lente, où il y a tout le jeu qui se met en place.
Et du coup, j'ai pas fait beaucoup de combats, et je trouvais que c'est le début, en plus, assez mou. C'est pour ça que je dis que ça serait bien, tu vois, pour certaines démos, qui puissent avoir des moments bien calibrés, en disant, voilà, c'est qu'une démo, donc vous serez peut-être surpuissant par rapport à ce que vous aurez dans l'aventure à ce moment-là. Mais c'est juste pour vous faire une idée approximative du gameplay. C'est vrai que les démos, ça peut être à double tranchant, mais comme tu l'as dit, l'offre est tellement pléthorique aujourd'hui. Enfin, moi, j'avais entendu une fois à l'époque que les démos, ça coûte quand même de l'argent. Enfin, surtout quand tu veux faire des démos bien calibrées, ça coûte quand même pas mal de pognon à l'éditeur ou au développeur. Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'on en a de moins en moins, en fait.
À la limite, tu sais, il faudrait un système comme ça où si t'as pas la possibilité de calibrer une démo, quoi, tu puisses dire à la plateforme sur laquelle t'es, alors moi, je permets aux joueurs d'y jouer 3 heures gratos comme fait Ubisoft, tu vois. C'est pas idéal, tu vois, mais c'est déjà ça.
Ouais, c'est une manière de faire sans pour autant prévoir une démo à côté, à l'image de ce qu'a pu faire par exemple FF15, où ils ont fait des démos, mais qui sont même pas dans le jeu, certaines. Donc eux, ils ont vraiment mis de l'argent dedans, quoi, mais tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça.
T'as le niveau encore au-dessus, celui dont parlait Atesh tout à l'heure avec Nioh, où là, c'est carrément des démos qui servent de bêta-test aussi, qui est très intéressant. Ce qu'a fait un peu FF15, d'ailleurs, aussi.
Oui, ouais, ils ont tout fait.
Vois, mais moi, ce que j'aime bien, par exemple, sur certains jeux indépendants, c'est que, surtout, tu vois, notamment tout ce qui est jeux de plateforme, ils te laissent, en général, les premiers niveaux. Tu fais les premiers niveaux, après, vu que c'est un jeu de plateforme, t'as pas de tout ce qui est scénario, tout ça, qui rentre en ligne de compte, tu regardes si les mécaniques du platformer te plaisent, et puis là, tu te dis, bon, bah ouais, ça a l'air sympa, je vais l'acheter. Par moi, je me rappelle très bien, tu vois, à l'époque où ça commençait à vraiment éclater sur Xbox 360, un jeu que je n'aurais jamais acheté comme ça au visuel, c'était Splosion Man. Et quand j'ai essayé la démo, j'ai dit, mais le truc, il est marrant, j'ai envie de voir où est-ce qu'ils peuvent aller. Moi, je dis, ouais, les démos, j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup plus, au moins je me fais un avis sur le jeu. Parce que tout ce qui est trailer, etc., maintenant je regarde plus, parce que ça me gâche l'expérience de jeu. Et s'ils peuvent me mettre un bout de gameplay qui représente pour eux une vision globale du jeu définitif, moi je suis preneur.
Moi je me rappellerai toujours que celui que j'appelle tout le temps mon jeu préféré, Skies of Arcadia, bah c'est un jeu que j'ai découvert par démo, tu vois. Mmh. C'était dans, je me rappelle, dans un Dreamcast, le magazine officiel. Ouais. T'avais le CD démo, et je me rappellerai toujours de cette démo, tu vois, alors pour le coup, qui est parfaitement représentatif du jeu. Tu vois, Skies of Arcadia, c'est un jeu immédiat stress.
Mmh.
C'est-à-dire, tu commences, t'es tout de suite dans l'action. Tout de suite. C'est un peu comme FF7, avec la descente du train, éco-terroriste, machin, allez les gars, go go go, on y va. Et Skies of Arcadia, c'est pareil, tu commences, t'es dans un bateau impérial que t'es en train d'envahir, et t'as tout dans cette démo, il y a absolument tout. C'est-à-dire que t'as le système de combat, que tu découvres tout de suite, t'as un boss, et là, une fois que t'as fini le boss, tac, tu découvres la carte du monde, et là, tu découvres une des cartes du monde en 3D les mieux conçues dans un JRPG. Tu peux te déplacer dans toutes les directions dès le début du jeu. Tu te dis, mais en fait, je peux aller partout. Bon, en vrai, tu te rends compte assez rapidement que tu peux pas aller partout, mais t'as une sensation de liberté tout de suite qui est assez représentative de l'expérience que je vais avoir au final. Derrière, t'as un village et t'as un donjon. Comme ça, tu vois, t'as un morceau du jeu direct qui est parfaitement représentatif de ce que tu vas avoir par
après, tu vois, enfin, parce que tu parles de Sky of Arcadia, mais c'est pas tous les jeux qui commencent comme ça, quoi.
C'est assez rare.
Ouais, c'est assez rare. Enfin, c'est pour ça que je trouve que un donjon, ça serait un peu représentatif avec quelques cutscenes. Et voilà, moi je trouve que ça serait un bon compromis, quoi.
Ouais. Bon, messieurs, je vous propose qu'on passe à Fire Emblem.
Allez.
Alors, on a eu pas mal de news sur Fire Emblem. Je pense que cette news, on aurait passé 3 heures si Marin avait été là. Mais écoutez, les absents ayant toujours tort, Fire Emblem, on va passer vite fait dessus. Parce que même si, personnellement, je suis intéressé par la licence, je suis pas non plus un expert de la série. Alors, déjà, on a eu la confirmation par rapport à notre podcast de la semaine dernière que Fire Emblem Warriors était bien Musou, n'est-ce pas? Pour ceux qui en auraient encore douté. Donc, on est bien d'accord, messieurs, Fire Emblem OSF, n'est-ce pas? C'est un peu dur, hein, mais très sincèrement, voilà, c'est un jeu qui intéressera les fans de Musou.
Oui, et enfin, ouais, ouais. Mais les fans de Musou, est-ce qu'ils sont très nombreux en Occident? Je pense pas. Enfin, c'est plus un truc Japon, quoi.
Après, Dragon Quest Heroes a plutôt bien marché, alors que c'est un style de Musou aussi, donc...
Ouais, voilà, c'est vrai.
Disons qu'avec une licence forte, peut-être que certains fans... Voilà. Vont apprécier le fait, tu sais, de pouvoir bah se bastonner comme ça, fait que les persos qui kiffent, quoi, et pourquoi pas après tout.
Le côté que je trouve bien pour le Musou de Fire Emblem, c'est que les phases de gameplay tactique, si tu les jouais en réel, ça serait comme ça, quoi. L'univers, en fait, se prête pour faire un Musou. Comme dans un manga, qui vient avec son épée, il tranche 4-5 mecs, puis après, il attaque les suivants. Mais moi, j'aime pas trop les Musou parce que c'est très très répétitif, en fait.
Ouais, c'est un genre qui est extrêmement répétitif et que je trouve pas très profond, en fait. Le seul Musou que j'ai apprécié, c'est les Drakengard, mais ça, c'est parce qu'il y avait un univers particulier derrière.
Ouais.
Parce qu'il n'y aurait pas eu d'univers, en fait, je me serais fait chier sur Drakengard, personnellement.
Bah, peut-être que voilà. Ceux qui aiment bien l'univers de Fire Emblem, tu vois, les mecs qui kiffent voilà, l'univers.
Précision par rapport à Fire Emblem Warriors, il sortira sur 3DS également.
Ouais, elle est pas laissée de côté.
Donc, on va parler maintenant de... Fire Emblem Echoes, qui est l'une des grosses annonces de ce Nintendo Direct, parce que c'était un Nintendo Direct consacré à Fire Emblem. Et Fire Emblem Echoes, donc en fait c'est un remake de Fire Emblem 2 qui était sorti au Japon, et exclusivement au Japon à l'époque, en 1992. C'est un épisode 3DS, première chose. Et c'est un épisode qui a l'air assez original, parce que c'est l'un des rares épisodes où on pourra se balader dans des donjons, n'est-ce pas ? Apparemment, c'est un vrai remake, tu vois. Enfin, en gros, ils ont pris Fire Emblem 2, ils ont fait un remake total, et ça a l'air vraiment cool, quoi. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup le style visuel du jeu, tout ça. Donc écoute, une très bonne nouvelle pour la 3DS, qui, à mon avis, a repris des couleurs grâce à un certain Pokémon, n'est-ce pas, et re-rentré dans les bonnes grâces de Nintendo.
Non, c'est sûr qu'elle est loin d'être morte, visiblement, puisqu'on a toujours beaucoup d'annonces, et puis des licences, entre guillemets, fortes de chez Nintendo, donc... Donc bon, c'est une bonne nouvelle pour la 3DS qui reste une bonne console et qui a pas mal de JRPG à disposition, ce qui est une bonne chose aussi.
Ouais, enfin, le Fire Emblem, c'est une licence qui est devenue forte, mais sur le tard, quoi, tu vois. Et le fait qu'elle sorte sur 3DS, pour moi, en fait, c'est le support de prédilection, quoi, en fait. Demain, Nintendo t'annoncera un Advance Wars, tu le verrais bien sur 3DS, tu le verrais pas sur la Switch. Pour moi, c'est des licences très portables, en fait.
Mais est-ce que la Switch n'est pas une console portable?
Bah, d'après Nintendo, c'est une console de salon transportable, donc.
Justement, petit aparté, on a eu une remarque dans le dernier podcast, je sais plus qui avait fait cette remarque, désolé, je m'excuse mille fois, qui disait en gros que Nintendo avait quand même fait une erreur de communication parce que ils auraient dû plutôt communiquer sur le fait que c'était une console portable qui pouvait faire une console de salon et non l'inverse en fait. Ce à quoi j'ai répondu que, à mon avis, c'était pas du tout une erreur de communication, c'était un choix qui avait été fait sciemment en fait. Parce que pour moi, Nintendo veut que les gens continuent d'acheter des 3DS. Et s'ils se mettent à dire que oui, effectivement, c'est une console portable qui fait salon, les gens ne vont plus acheter 3DS. Ça serait reconnaître que c'est la remplaçante de la 3DS.
Ça marche sur les plates-bandes de la 3DS, voilà.
Donc, et moi, je pense que c'est un choix qui a été fait sciemment par Nintendo, notamment au regard peut-être des ventes de Pokémon, mais même des ventes globales de la 3DS depuis quelques mois. Où ils se sont dit, vous êtes gentils les gars, mais il y a une console là qui coûte pas cher à produire, qui se vend très bien, on va pas l'arrêter comme ça. Voilà, donc moi je pense que c'est un choix qui est fait sciemment par Nintendo, et le fait quand même qu'on ait un vrai Fire Emblem qui était annoncé sur Switch derrière, parce que ça on va en reparler, à mon avis c'est un indicateur du fait qu'aussi, à un moment donné, je pense quand même que la Switch sera amenée à remplacer la 3DS d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ils ont beau dire, oui, non, c'est pas le remplaçant de la 3DS, ils disaient que la Switch c'était pas la remplaçante de la Wii aussi, hein. On a vu le résultat.
Pour la 3DS, tu sens bien que c'est, on est quand même sur la fin, et c'est la phase de transition, et pourquoi ils se priveraient de sortir un Fire Emblem sur un parc où il y a des machines, autant de machines installées en fait. C'est là où tu peux faire le plus de ventes. Ils peuvent même très bien encore pousser le bouchon un peu plus loin et sortir encore un dernier Pokémon, histoire de grappiller encore quelques millions de plus, tu vois, sur la 3DS, et après ils passent à autre chose.
Oui, non, mais moi je pense que c'est totalement ça en fait. C'est-à-dire que la 3DS, ils vont entre guillemets l'essorer jusqu'au bout, tu vois.
Bah ouais.
Et moi je pense que depuis le début, même s'ils s'en défendent, l'objectif de la Switch, c'est de faire les deux, c'est-à-dire portable et salon, et de réduire les coûts de développement en réunissant toutes leurs licences, en fait, sur
une même plateforme,
une console. Hein. Pour pouvoir l'alimenter en permanence, plutôt que se disperser
c'est
à faire des jeux pour portable à droite. Bon, tu me diras, maintenant, ils font des jeux mobiles, donc peut-être qu'ils vont continuer à se disperser, mais... D'ailleurs, bah justement, un nouveau vrai Fire Emblem sur console de salon, ça n'était pas arrivé depuis 2007. Écoutez, ben, enfin, voilà. On n'en dira pas plus parce que...
On n'en sait rien. On n'a rien vu.
On n'a rien vu du jeu, quoi. Et c'était juste les mecs qui disaient, ah oui, en fait, y a un Fire Emblem sur Switch l'année prochaine. Et ce à quoi je réponds, bah oui, effectivement, l'année prochaine. Et c'est un peu le problème de la Switch, hein, vous aurez remarqué, c'est à l'année prochaine. Mmh. Voilà. Donc, moi, je suis très curieux. Ça faisait longtemps que j'attendais ça. Très bonne nouvelle.
Ouais, je suis pas non plus le plus grand fan, mais Fire Emblem, c'est une licence que j'apprécie. On va dire que si elle sort sur Switch avec un bon character design, ça serait une des raisons de prendre de la Switch, alors que pour l'instant, enfin, c'est pas trop ça, quoi.
Bah, disons que en plus, pour moi, Fire Emblem, c'est une licence un peu à phare chez Nintendo, quoi. Ça parle de guerre, tout ça, enfin, il y a des vrais scénars dedans. Bon, tu me diras, ça dépend des épisodes, mais c'est quand même une licence qui est un peu à côté, quoi, tu vois, dans l'univers de Nintendo.
Ouais, c'est clair et net que c'est une bonne licence, faut pas qu'elle tombe dans l'oubli, mais enfin comme tu l'as dit là, ils font des jeux sur mobile et tout ça, et à force de sortir autant d'épisodes, parce que là Fire Emblem, c'était une licence qui était quasi morte il y a encore 3-4 ans de ça, et là 2017-2018, est-ce que ça va pas être un peu trop l'overdose?
Ouais, parce que précisant, attends, c'est pas fini. Il y a un Fire Emblem qui va sortir sur mobile.
Voilà.
Donc Nintendo continue sa stratégie sur mobile. En même temps, qui ça étonnera personne, hein, n'est-ce pas?
Oui.
Depuis qu'ils ont officialisé que Mario sortait sur mobile, c'était clair, net et précis que Nintendo et le mobile, ça allait durer. À mon avis, tu vois, Nintendo, je pense que... Finalement, en fait, l'impression que j'ai avec la stratégie Nintendo en ce moment, c'est qu'ils mettent leur billet un peu partout, tu vois. Avec la Switch, ils ont un pied à la fois chez les gamers, entre guillemets, mais aussi dans le motion gaming, parce qu'ils essaient de contenter un peu tout le monde, tu vois. D'un côté, t'as One to Switch, de l'autre, t'as un vrai Mario, un vrai Zelda, un Xenoblade, tu vois. Donc ils essaient quand même de proposer des expériences pour tout le monde. Ils font aussi du jeu sur mobile, parce que on sait jamais, tu vois, des fois qu'on se plante avec la Switch, faudrait qu'on ait un marché, tu vois, aussi pour faire un peu de pognon, quoi. Ils se sont quand même bien rendu compte avec Pokémon que, ben...
Qu'il y avait un vrai marché, ouais.
Non, mais surtout qu'en plus, ça pénalisait pas leur sortie,
oui,
entre guillemets,
au contraire même,
de jeux un peu consistants, tu vois, de jeux premium, j'ai envie de dire. Le mobile, c'est pas forcément le même public que le public de joueurs, qui pour le coup achète les grosses licences Nintendo, mais en plus, gros avantage, ça peut attirer un nouveau public vers les licences entre guillemets classiques de Nintendo, quoi.
Et Fire Emblem, pour moi, c'est une licence que tu peux adapter facilement mobile.
Bah les tacticals, de toute façon, ça se prête au mobile,
voilà.
Je veux dire,
oui,
voilà.
Tu vois, enfin, totalement. C'est quoi. Le truc le plus simple en fait à faire, de gérer des troupes et de mettre, par exemple, un chevalier élite, un chevalier un peu moins puissant, et avec des microtransactions, tu pourras avoir une chance de plus d'avoir le soldat que tu rêves tant à avoir dans ton équipe. Peut-être que ça sera le Fire Emblem finalement qui va faire connaître la licence au grand public. Quand je vois qu'il y a des jeux, par exemple, tous les jeux qui sortent free to play comme les Clash of Clans, tout ça, enfin c'est pas des jeux auxquels je joue personnellement, mais je me dis que tu vois, c'est une licence Nintendo, c'est le type de consommation que les gens ont l'habitude de jouer sur mobile. Ça peut être le truc qui fait que voilà, Fire Emblem, ça va avoir une aura tout autre depuis en fait depuis, pour moi, depuis l'arrivée de la série sur le 3DS, bah la série elle commence à se faire connaître, donc elle a un nom pour le public occidental. Et vraiment, celui sur mobile, j'y jouerai pas parce que c'est pas du tout mon type de jeu. Mais je sens vraiment bien la machine à sous de Nintendo.
Là, en plus, où ils sont malins, c'est que donc ce Fire Emblem Heroes qui sort sur mobile, il sort en février. Et en fait, tous les autres jeux, tu vois, ils sortent après. C'est-à-dire que Fire Emblem Warriors, donc l'épisode Musou, il sort à l'automne. Le Fire Emblem Switch, il sort l'année prochaine. Le Fire Emblem Echoes, il sort en mai 2017.
Ah ouais, ça,
donc
ça...
c'est juste après, tu vois.
Ça en fait quand même.
Ça ressemble énormément à la stratégie de Pokémon Go avant la sortie du Pokémon 3DS, de toute façon.
Voilà. Donc on te met le produit d'appel sur téléphone.
Ouais.
Et puis après, on te met les jeux un peu consistants. Alors si vous avez bien aimé ce petit jeu, n'est-ce pas, nous vous proposons cette pléthore de jeux qui va sortir l'année prochaine. Donc voilà, enfin tu vois...
Non mais c'est ce qu'il faut faire.
C'est roman mené.
C'est ce qu'il faut faire. Et bon, bref, 2017, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de Fire Emblem qui vont sortir en 2017. Mais ce qui est cool, c'est que déjà, ils sont pas sur les mêmes plateformes. Et en plus de ça, il y a des Fire Emblem un peu différents avec les Musou, des Fire Emblem qui reprennent des personnages
connus. Ouais, surtout que le Musou, c'est quoi, Tecmo, tu vois. Donc Fire Emblem Warriors, il a l'avantage de ne pas mobiliser des équipes internes de Nintendo qui doivent sortir le vrai épisode Fire Emblem qui va débarquer l'année prochaine, plus l'épisode 3DS, tu vois. Ce qui est quand même un peu consistant, déjà.
Et ça se trouve que ça sera une bonne surprise comme Dragon Quest Hero, tu vois. Square Enix, ils ont été très contents du premier épisode. Et donc, peut-être, tu vois, enfin, celui-là, ça se trouve, il va être de la même qualité que Square Enix a fait avec sa licence. Et la licence, là, enfin, j'ai l'impression qu'en cette année-là, 2017, elle va prendre une ampleur qu'elle n'a jamais eue avant, quoi.
Ouais. Bon, Nintendo, j'espère que vous avez profité parce qu'on a dit plein de bien de vous. Mais maintenant, on va être très méchants.
Ben, attends, ouais.
Non, enfin, on va dire une dernière chose de bien sur Nintendo, mais après, ça va tailler, je vous préviens, ça va être violent. Non, parce que il y a un truc qui est pas mal, par contre, parce que dans une interview chez Kotaku, il y a un représentant de presse, enfin je pense que c'est un représentant de presse parce qu'il précisait pas que c'était un pont de chez Nintendo, donc ça devait être un RP je pense, qui leur a précisé que apparemment il sera possible de créer plusieurs comptes sur le store de Nintendo sur différents pays, ce qui veut dire donc que le store serait également dézoné à l'image de la console, et ça c'est une très bonne nouvelle.
Bah oui, c'est, enfin, ils ont mis le temps à comprendre Nintendo, quoi. C'était en 2017, il fallait laisser le choix aux gens, quoi. Et en plus de ça, je pense pas que, parce qu'ils peuvent se dire, ouais, mais si les gens achètent les jeux quand ils sortent au Japon, ils vont pas l'acheter quand ils vont sortir en Europe ou aux États-Unis. Mais déjà, je pense que c'est quelque chose qui touche une niche de personnes. Parce que déjà, il y a la barrière de la langue.
Pour les comptes, faut se casser le cul à créer un compte, voilà, sur en japonais ou enfin ce que tu veux,
oui,
quoi.
Oui, c'est pas tout le monde qui va le faire.
Moi, je me rappelle très bien qu'il y avait des tutos à l'époque pour sortir des comptes sur le, par exemple, sur le PlayStation, pour comment faire pour avoir une adresse japonaise. Et bah, il y a beaucoup de gens qui récupéraient des démos comme ça, tu vois, des démos par exemple de Yakuza qui sortaient 2-3 ans plus tard chez nous, quoi. Et les gens, ils se faisaient une idée du jeu avant qu'ils sortent chez nous. Et puis dès que la version US était annoncée, ils le prenaient en import pour y jouer. Et donc, pour moi, c'est une bonne chose qu'ils laissent faire ça. C'est pas de l'argent perdu, quoi qu'il arrive, quoi.
Voilà. Donc ça, c'était la chose bien qu'il y avait à dire. Maintenant, on va vous tailler, mais grave, quoi. Parce que bon, à un moment donné, alors dans la même interview, on apprend des choses un peu moins agréables. Notamment, par exemple, que... Alors, vous savez, la Switch, elle n'intégrera que 32 gigaoctets de mémoire.
Comme la Wii U.
Tu vois.
Enfin, la Wii U noire.
Voilà, ça fait un peu léger. Bah, vous voyez tous la taille que font les jeux aujourd'hui, hein. Je veux dire, 32 gigaoctets. Personnellement, moi, ça ne supporte même pas GTA V à 32 gigaoctets, hein.
Moi, je pense qu'on aura plus des jeux de la taille de ce qu'il y avait sur PlayStation 3 et Xbox 360. Zelda Breath of the Wild, il fait 13 gigas. Et un jeu sur PS3, quand tu télécharges en dématérialisé, il tourne dans les 10 gigas maximum, quoi. Ça sera pas plus gros, mais c'est vrai qu'après, tu vois, par exemple, ça ferait que 3 Zelda sur ta Wii U, quoi. Et encore 2 Zelda, parce que le troisième, vu que ça fait 13 gigas, il faut compter l'OS en plus, qui prend de la place sur le disque dur. Et donc, tu pourras en fait avoir que 2 Zelda Breath of the Wild, donc c'est un peu nul.
Mais ne t'en fais pas, ils ont prévu le coup. Tu pourras ajouter des cartes micro SDIC. Mmh. Et si tu veux 128 gigaoctets, je rappelle quand même. Alors moi, je me suis pas fait chier, hein, je suis allé voir sur Amazon combien ça coûtait. J'ai pris le modèle le moins cher que j'ai trouvé. Pour 128 gigaoctets, il faut quand même rajouter 40 euros. Alors on dira, c'est que 40 euros. Oui, mais la console, elle en coûte déjà 330.
Ouais,
c'est ça, c'est encore un coût supplémentaire à ajouter.
Sans jeu, sans manette.
Oui, sans jeu.
Avec une manette, mais sans deuxième manette.
Et surtout que la manette, il y a deux trucs un peu chelous dont on va parler après, ouais.
Mais pour finir sur le prix de... cette micro SD que tu peux ajouter comme mémoire externe, c'est bien au moins qu'ils ont pas fait un format propriétaire comme Sony a fait avec sa PS Vita, quoi.
Ça, c'est le sûr. Point positif,
voilà,
par contre.
C'est le seul point positif qu'on peut ajouter là-dessus, mais c'est con, quoi, d'avoir mis que 32 gigas. La PlayStation 4 ou la Xbox à 500 gigas, elles sont à 299 €. Et maintenant, t'as les modèles 1 Tera, tu vois. De base, minimum, la Switch devrait avoir 500 gigas comme tout le monde.
Et à mon avis, ils ont un gros problème, Nintendo, c'est que comme ça doit être une console, portable, en même temps, ils ont beau s'en défendre, ils ont les contraintes du console portable, c'est-à-dire que les 32 gigas, là, c'est de la mémoire NAND, et la NAND, ça coûte cher.
Oui.
Ils peuvent mettre un gros disque dur, tu vois, dans une console de base. Tu vois ce que je veux dire?
Voilà, sur un truc portable, tu peux pas.
Il faut que tu puisses enlever le jeu du dock. Mmh. Donc, de fait, il faut que le jeu, il soit stocké sur la tablette, tu vois.
Mais moi, ce que je...
Tu peux pas mettre un disque dur dedans.
Depuis l'arrivée de la génération 360 PS3, on avait plus ce système, tu sais, de carte mémoire. Et bah maintenant, en fait, t'auras des cartes mémoire, mais pour, ça sera vraiment ta carte mémoire de sauvegarde, quoi. C'est ton disque dur, en fait. Les gens, ils vont devoir se balader avec leur carte externe pour sauvegarder leur jeu dessus. On retourne en arrière, quoi. On dirait qu'on est revenu à la génération GameCube.
Mais moi,
c'est surtout que c'est une console portable.
Mais à la limite, tu vois, la console, elle aurait coûté, je sais pas, moi, 300 € avec un jeu, ça m'aurait moins choqué, tu vois. J'aurais dit, bah écoute, oui, à la limite, je prendrais, bon, allez, on va pas prendre une 120 Go, on va prendre une 64, ça me coûtera 20 balles en plus. C'est jouable, tu vois. Et là, en fait, comme tout coûte cher déjà sur cette console, que ce soit pour remplacer les manettes ou etc., tu dis putain, c'est encore ça en plus à payer, quoi. Tu vois, tu à un moment donné, t'as envie de leur dire stop, quoi. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, comme déjà tout coûte cher dessus, là, l'addition, elle a un peu de mal à passer, tu vois.
Surtout, voilà. Enfin, surtout le truc moi qui m'a fait rire, parce qu'on l'a vu qu'on est en train de parler du prix, je voudrais le placer maintenant, c'est que Régis Fils-Aimé, lors d'une interview, un journaliste lui a demandé pourquoi vous n'avez pas intégré One to Switch dans le pack de base de la Wii U. Il a dit parce que nous ne voulons pas imposer de jeu aux joueurs, nous voulons leur laisser le choix.
Bah à la limite pourquoi pas, mais vends la moins chère ta console.
Enfin
quoi.
Je veux dire
non mais à la limite.
Oui mais One to Switch pour moi c'est un jeu gadget quoi, c'est pas un truc qui coûte 50 balles.
Bah c'est les jeux qui étaient fournis avec la Wii U, le golf, voilà. le bowling,
mais
toutes
même,
ces conneries
mais
quoi.
Même je trouve ça plus intéressant Wii Sport et Wii Sport Plus là, parce que au moins tu jouais avec ta télé. Alors que là c'est des jeux où tu n'as même pas besoin de regarder l'écran. Comme le disait si bien Kamui ou Greg, je sais plus, dans Gaijin Dash, c'est-à-dire que c'est des jeux, enfin, tu vas pouvoir y jouer, mais c'est comme si tu jouais en fait avec tes potes, on fait des pouces, quoi. Dans ce cas-là, t'as pas besoin de One to Switch, tu prends un Monopoly et voilà. Tu regardes pas l'écran, je trouve ça assez illogique, quoi. Je sais pas comment ils ont pu valider cette idée chez Nintendo, en fait.
Et moi, ce qui m'a fait très rire, par contre, dans l'interview où il parle de la carte micro SD, c'est qu'à un moment, il dit « Ah oui, mais attention, hein, la micro SD, ça pourra monter jusqu'à 2 Tera. » Ouais, t'as vu le prix de 128 gigaoctets déjà? Alors déjà, je précise, la 2 Tera, elle est pas sortie encore. Hein.
Aujourd'hui, ouais, ça existe pas.
Ça existe pas encore, ça va bientôt sortir. Mais en plus, quand tu vois que c'est 40 balles pour 128 gigas, je te laisse imaginer.
Tu vas payer 200
Tera,
balles pour 2 Tera, quoi.
Ouais. Ouais. Donc bon, ben, c'est pas vraiment un argument les mecs ça. Et petite cerise sur le gâteau, parce que on se dirait encore, tu vois, ouais non mais c'est pas grave, mes jeux je les stockerai sur un disque dur externe, bon ça va être un peu chiant parce que je pourrais pas jouer en mode nomade, mais au moins tu vois, imaginons, je me fais pas chier, j'installe les jeux auquel je joue actuellement sur ma tablette, tu vois. Et les jeux, entre guillemets, que je mette de côté, je les mets sur le disque dur externe. Et puis, je les réinstallerai plus tard, tu vois. Oui, sauf que...
Non.
Comment vous dire? Nope. C'est-à-dire qu'en gros, la console ne supportera pas les disques durs externes au launch.
Ouais.
Voilà.
Non mais enfin, est-ce que je veux dire, est-ce que ça mérite un commentaire en plus enfin
non, je pense pas, je pense que
ouais, la phrase elle a déjà en elle-même elle se résume très bien.
Ouais, je pense qu'en fait on peut passer à la suite, tu vois. Parce que c'est pas fini, tu vois. On passe au coup suivant dans l'Intercade, tu vois. Ouais, ou
allez, déterrons le mort.
Alors, donc alors là c'est un truc. Si la console était un prix raisonnable, etc., ça pourrait passer. Alors, vous savez, sur n'importe quelle console actuelle, quand ta manette, elle est déchargée, bah, ce que tu fais, c'est que tu prends un câble et tu le branches sur ta console. Et bon, ta manette est pas sans filaire, d'accord, mais ça passe, tu vois, tu la recharges. Ça marche pas comme ça sur Switch.
Trop facile, ça.
Ça, parce que je vous rappelle donc l'idée géniale de Nintendo avec les Joy-Con, c'est de dire ok, donc vous avez ces Joy-Con là qui sont normalement attachés à la tablette, que vous pouvez mettre sur un support qui va servir de manette, en gros vous les attachez à ce support et donc ce support prend la forme d'une manette une fois que vous l'avez en main. Moi, naïf que je suis, je me disais ok, donc tu vas pouvoir mettre un câble micro USB, tu vas le brancher à ta console pour recharger les Joy-Con, quoi, tu vois.
Tu rassures, tu n'étais pas le seul à penser ça. Hein.
Ah non, c'est trop simple ça pour Nintendo, tu vois, c'est beaucoup trop simple. Donc en fait, le support de base, il ne permet pas de recharger les Joy-Con. Il faudra acheter une version premium.
Putain, mais non.
Sachant que je crois que la version premium, je sais plus, c'est 20 ou 30 balles, je crois.
Ouais.
Enfin, tu sais, on est plus à ça près, maintenant.
Allez, soyons gentils, on va dire 20 euros. On va pas mettre le plus grand.
Ouais, voilà, on va être sympa. On va dire, le support supplémentaire à 20 balles. Soit, en fait, vous pourrez, donc, pour les recharger, ils ont quand même prévu un truc de base pour le recharger, quand même. Ils sont pas totalement débiles non plus. Pour les recharger, il faudra que vous les branchiez sur la tablette. Si tu veux recharger tes Joy-Con, bah t'auras pas le choix, il faudra jouer en mode portable. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui mais t'as qu'à faire attention, à chaque fois que tu finis de jouer, tu remets tes Joy-Con dans la console. Moi vous me connaissez pas. Hein. Moi je suis le gars, je fais pas du tout gaffe à mes manettes en fait, et ça m'arrive souvent. J'arrive, ah merde c'est déchargé, bah du coup c'est pas grave, je branche, tu vois. Moi ça m'arrive tout le temps ce genre de truc. Bon, à la limite, voilà, mais c'est vrai que fondamentalement, c'est juste un truc qui est mal branlé, tu vois. Et on pourrait pardonner ça si la console, encore une fois, avait pas toutes ses casseroles derrière elle. Mais le problème, tu vois, c'est que c'est la petite casserole en plus.
Ouais, mais
ça enchaîne,
c'est
ouais.
C'est voilà. Le truc qui est là pour te faire raquer en plus. Et en fait, le problème qu'on est en train de voir avec cette Nintendo Switch, c'est que la moindre option, en fait, Nintendo te la fait payer. J'ai l'impression que pour avoir l'expérience optimum, ça va coûter beaucoup plus cher qu'une PS4 Pro.
Qu'une PS4
voilà.
Pro.
Voilà. Ouais, ça va coûter beaucoup plus cher qu'une PS4 Pro. Surtout que maintenant, parce que, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais le online, il est payant. Si tu te dis, je veux jouer en ligne, à Mario Kart 8, avec, 4 amis à moi, tu vois, tu commences à calculer, là, et tu te dis, ouais, en plus de ça, je voudrais d'autres jeux, les pouvoir les stocker sur la machine. Ah oui, il faut que j'achète des cartes externes pour pouvoir sauvegarder mes jeux. Oh putain, les gars, oh. Et la console va coûter combien? 650 euros pour avoir l'expérience complète. Ça fait super cher en fait pour une console qui était censée être à prix abordable quoi, selon Nintendo avant sa sortie. Là, j'ai l'impression que Nintendo il voit que des billets partout. Il se dit attends, dès qu'on va faire ça, voilà, c'est ça. Et enfin Nintendo ça a toujours été un vendeur d'accessoires, mais là ils abusent un peu les gars quoi.
Je pense à la chanson des Inconnus. Où que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, c'est pas possible que t'en réchappes.
Ouais, non, mais c'est exactement ça, là. C'est Nintendo, là, ils veulent vraiment plumer le consommateur, quoi.
Mais attends, c'est pas fini.
Je sais.
Bon, rassurez-vous quand même, là, on va pas vous faire payer, quand même. Enfin, bah, quoi que si, techniquement, c'est en rapport avec l'online, donc il faudra payer.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais bon, disons que c'est pas un truc nouveau, quoi, entre guillemets. Là, c'est plus du point de vue ergonomique, par contre. Mmh. Les idées de génie Nintendo, je pense qu'il faudrait faire un jingle, tu vois. Les idées de génie de Nintendo.
Franchement, l'idée du siècle, quoi. Surtout que, vas-y, je te laisse annoncer, parce que après, je dirai ce que j'ai à dire dessus.
Allez, roulement de tambour.
Voilà.
Donc, vous savez, dans les jeux en ligne de nos jours, il y a une fonction basique, tu vois, qu'on appelle le chat vocal.
Voilà.
Au lieu de faire comme tout le monde, tu vois, et d'avoir le chat vocal intégré à sa machine, chez Nintendo, on est différent, tu vois, think different, n'est-ce pas? Et on a décidé que bah le chat vocal, pour l'utiliser, il faudra passer par une appli de smartphone obligatoirement.
Mm.
Avec Régis Fissimé, qui a quand même le culot de te dire que, ouais, non, mais un micro-casque, vous imaginez, c'est trop encombrant, quoi. Nous, on a une idée de génie,
Oh putain, non mais c'est la phrase bullshit de l'année quoi. Non, mais...
nous, tu vois, on pense aux joueurs et on s'est dit que un smartphone c'était quand même moins encombrant. Je veux dire, tu prends ton smartphone, tu mets les écouteurs et vas-y, roulez jeunesse quoi.
Ah mais non mais attends, parce que il faut que j'explique un truc à Régis Fils-Aimé déjà. C'est que sur PS4, tu vois, le microphone, tu le branches sur ta manette. Donc ça change quoi que je le branche sur ma manette ou sur mon téléphone? Ah si, parce que sur ma manette, c'est compris dans le service de la machine. Et là, alors que là, je suis obligé de passer par un service qui est tierce, mais le truc encore plus débile de la part de Nintendo, c'est-à-dire que on dit souvent que la Nintendo Switch, enfin Nintendo, c'est une image pour enfants. Comment tu vas faire pour ton gamin qui voudra jouer en ligne? Il va demander ton téléphone portable, parce que, je sais pas, moi, un gamin de 5-6 ans, je lui donne pas un téléphone portable.
Ah, surtout si c'est un iPhone 7 qui a coûté 700 balles. Voilà.
Mais même un 3310, je lui donne pas.
Ouais, voilà.
Donc, si tu veux, ça, c'est contraignant. Et pourquoi pas, parce qu'ils vont se dire, ouais, mais si les gens, ils veulent jouer en ligne, ils pourront pas. Tu sais, il y a un truc qui s'appelle groupe d'amis, et si t'as peur qu'ils tombent sur des insultes ou bien des pervers en ligne, et bah tu dis, mon fils ne peut parler qu'avec ses amis en ligne. Vous créez un espace privé, un chat, où il y a que les gens que vous connaissez qui peuvent interagir avec vous. Et ça s'arrête là. Mais non, eux, ils sont partis de mettre l'application dans le téléphone. Non, mais là, c'est du génie, franchement, la Nintendo.
À la limite, qu'on dise, ok, vous avez pas de micro-casque, bah, vous pouvez passer par votre smartphone. Là, je dis, ouais, pourquoi pas? Mais il faut qu'il y ait les deux. Faut pas, forcer les gens à prendre leur smartphone.
Non, mais là, ça sent vraiment le truc pas fini, quoi. Ils ont voulu sortir la Switch tôt. Et ils ont dit ça, ah, le chat, bon, allez, on va laisser tomber, on va leur dire qu'ils passent par un truc sur le téléphone, et puis voilà, quoi. Je sais pas, c'est incompréhensible. Je vois pas une bonne raison de faire ça, comme vous avez dit.
Ou alors, c'est encore des économies à la con, tu vois. C'est-à-dire que, bah écoute, c'est comme ça, on va pas développer l'interface de la Switch pour qu'elle gère le chat vocal. Ça nous évitera de devoir à gérer le micro-casque.
Oui, de maintenir.
Tu vois,
ouais.
Voilà, c'est des économies à la con, peut-être aussi. Possible.
Ouais,
Ou alors c'est juste une décision débile, hein, peut-être aussi.
Oui, voilà, ouais. Même en réfléchissant bien, on a du mal à comprendre, alors bon, c'est...
D'ailleurs, tiens, je vais oublier un truc. Alors, Ben, la Switch?
Voilà.
Day One, c'est ça?
Oui, bah oui, bien sûr, ouais. Déjà que j'ai pas assez de temps pour jouer avec tous les jeux que je voudrais sur PS4, si en plus je me colle une console de plus... Voilà.
Enfin, moi, cette Switch, c'est... Enfin, après l'échec de la Wii U, je me dis, Nintendo, c'est pas possible, ils vont sortir une machine en béton. Ils vont donc que ça cartonne, et ils vont pas faire des erreurs à la con. Si ça marche pas, c'est vraiment que c'est un désamour du public. Mais là, j'ai l'impression que, en fait, ils sont en mode oreillère. C'est les trois singes, tu vois. Ils ne voient rien, ils n'entendent rien, ils ne disent rien. Et j'ai l'impression qu'ils ne regardent pas ce qui se fait autour. Et que même les trucs qu'on pensait que qu'ils allaient être basiques, comme le fait juste de les recharges de batterie, enfin il y a trop de trucs là, c'est pas possible. Nintendo il déconne quoi. C'est...
Et encore une fois, il y a plein de trucs, tu vois, c'est des petits trucs.
Oui.
Mais le problème c'est que c'est
additionné.
Un petit truc plus un petit truc plus un petit truc plus un petit truc plus un petit truc.
C'est ça.
Et au bout d'un moment, ça fait un gros truc.
C'est
tu
ça.
Vois.
Finalement, c'est une addition qui devient une multiplication, et la note à la fin est salée. J'ai peur de me répéter encore une fois, mais cette Switch, je la sens pas du tout, en fait.
Tu es mauvaise langue, ATH, elle est en rupture de stock, comme la Wii U. Ah.
Mais en vrai, bah, là où, Je sais pas, si ça se trouve, c'est, tu vois, les Nintendo sexuels qui l'ont acheté et qui...
Non, mais encore une fois, la Wii U, elle était en rupture de stock, hein. C'est juste qu'ils ont pas fait beaucoup de stock, hein.
Oui, tout, non, mais voilà. Tu vois.
Oui, c'est facile d'être en rupture de stock.
On aura des vraies données à la fin de l'année, là, on saura. Alors après, encore une fois, on souhaite pas que Nintendo se plante, hein. Surtout pas, putain.
Ah non.
Parce que Dieu sait qu'on a besoin de Nintendo sur le marché des consoles.
Non, mais c'est,
hein,
c'est clair et net.
S'ils commencent à faire du jeu smartphone, là, on va pleurer, je pense.
Non, mais moi, ce qui me ferait chier, en fait, ce qui me ferait chier le plus, c'est que, au final, tu vois, Nintendo, ils se cassent la gueule, Microsoft, ils arrêtent de faire des consoles de salon.
Et que Sony soit tout seul et qu'on se fasse entuber.
Ah, voilà. Mais déjà, on se fait entuber, là. Mais, sauf que, heureusement que, il y a un petit peu de, si tu veux, de concurrence en face. J'ai l'impression qu'en fait, les gens, ils vont pas se focaliser sur les jeux qui vont sortir. Même s'ils sortent des bombes sur la Wii, sur la Nintendo Switch. J'ai l'impression que ce qui va rester, là, pour l'instant, c'est l'argument tarifaire, quoi. Il faudra payer. Et moi, enfin, pour l'instant, franchement, cette console, elle m'attire pas du tout, quoi. Et alors que pourtant, il y a des jeux qui me font envie. Mais non, là, c'est un peu, je la pondrai quand ça sera, peut-être quand ça sera morte et enterrée et que le line-up sera disponible et là, je vais me faire un kiff dessus.
Voilà. Ah, au fait, juste une petite précision avant de terminer parce que je pense qu'on va bientôt s'arrêter là. Juste, j'ai eu un éclair de génie, tu vois, et j'ai fait un truc que je ne fais jamais d'habitude. J'ai précommandé Zelda Wii U. Pourquoi? Parce que je me suis rappelé de Zelda GameCube.
Twilight Princess, qui était sorti en très peu d'exemplaires.
Oui, vous savez, le jeu qui est sorti en très 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 peu d'exemplaires.
Ouais.
Et je pense que je vais peut-être même faire un stock de Zelda.
Ah oui.
De Zelda Wii.
Putain, tu le revendras sur...
Voilà, ça sera un collector.
C'est ça.
Voilà, non, juste, c'était le petit troll de fin. Non, parce que tu vois, ça m'est venu hier, j'ai eu la révélation, tu vois, je me suis dit, ah putain, si ça se trouve, ils vont nous refaire le coup de pute de la GameCube.
Mais moi, je sens qu'ils vont le refaire, ce coup-là. Ils veulent privilégier la version Switch, ce qui est tout à fait normal. Mais le Twilight Princess, il était sorti en vraiment très très peu d'exemplaires, quoi. Et c'est pour le trouver, c'était assez compliqué, quoi. Tu vois, moi, je me suis dit, parce que j'avais pas eu la GameCube, et quand elle était passée à 99€, je me suis dit, bah tiens, quand le Zelda va sortir, je vais me la prendre avec la GameCube, parce que la Wii m'intéresse pas trop. Et impossible de trouver un épisode de Zelda Twilight Princess à la sortie sur GameCube.
Voilà. Bon, messieurs, je vous propose qu'on s'arrête pour cette semaine.
Ouais.
Bon, Nintendo, hein, faites un effort, merde. On veut bien être sympa avec vous, mais là, faut faire quelque chose, quoi.
Ouais.
Bon, allez, rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous. Ciao.
Salut.
Ciao.